l'amour que Dieu a pour nous. Et vraiment, ça m'a réchauffé le cœur ce matin. Merci à toi. En tout cas, j'en profite pour remercier Kiss, Félix, Guy et les deux Jean-Claude pour les études dont on peut bénéficier. Et depuis quelque temps, je travaille sur ce passage et je peux voir tout le travail que ça demande, tout le zèle, tout le service que vous avez pour Dieu. Et vraiment, on n'en a peut-être pas conscience, mais on est vraiment béni par ces messages dont vous nous faites partager. Et je veux remercier aussi toutes les autres personnes qui sont ici, parce que par votre présence, vos prières, vos regards, vraiment, on voit votre fidélité. On voit la présence du Seigneur en vous. Et vraiment, ça aussi, c'est quand on se retrouve là devant vous, ça fait vraiment du bien. Voilà. Donc, je vais introduire le passage dont je vais d'abord lire et puis le commenter. Donc nous savons, parce que nous poursuivons la première épître de Pierre, nous voyons que Pierre insiste beaucoup sur l'encouragement, sur l'affermissement de la foi de ses lecteurs. Et il les prépare, il veut les préparer à affronter les épreuves et les souffrances qui seront de plus en plus fortes. C'est le fil conducteur de l'épître. Alors je vais vous lire 1 Pierre 4, versets 1 à 11. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché, afin de ne plus vivre le temps qui lui reste à passer dans son corps, selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. C'est bien assez, en effet, d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens, en vous adonnant à la débauche, aux passions mauvaises, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries, aux dérèglements associés au culte idolâtre. Maintenant, il trouve étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans la même vie de débauche, et ils se répandent en calomnie sur vous. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela d'ailleurs que la bonne nouvelle a aussi été annoncée à ceux qui maintenant sont morts, afin qu'après avoir subi la même condamnation que tous les autres hommes dans leur corps, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée en faisant preuve de modération, afin d'être disponible pour la prière. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. Exercez l'hospitalité les uns vers les autres sans vous plaindre. Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier, qu'il exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire en revienne à Dieu, par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Nous voyons que dans le verset 1, que ainsi donc se réfère à ce qui a été écrit en 1 Pierre, chapitre 3, verset 18, que je vais vous lire. Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous introduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. C'est par obéissance, par amour pour Dieu et pour tous les frères, que Jésus a souffert, afin de nous sauver. Sa mort et sa résurrection nous ont libérés du péché et de la mort. Il a fait de nous des frères et sœurs en Christ. Nous ne pouvons que le louer et lui dire merci pour cette grâce qu'il nous a faite. Les lecteurs auxquels Pierre écrit sont malmenés. Ils sont éprouvés à cause de leur foi et du témoignage de leur foi. Et il veut les soutenir, les affermir, les réconforter, les aider à supporter les épreuves qu'ils vivent, les préparer et les encourager à suivre l'exemple de Jésus-Christ, qui a souffert dans sa vie terrestre. Pour cela, il leur demande de s'armer de la même disposition d'esprit que Jésus, et à trouver leur force et leur joie en lui. Alors, sommes-nous prêts à souffrir pour Jésus? Je vais vous lire Matthieu 16, 24. Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » À nous aussi, Pierre nous demande de nous armer de la pensée de Jésus-Christ. Par le mot « armée », il veut nous faire comprendre qu'il s'agit d'une lutte, d'une forme de combat. En grec, le verbe « aimer » décrit un combattant qui se revêt de sa cuirasse afin de se défendre. Dans Éphésiens 6, Paul décrit les armes dont nous disposons en tant que chrétiens. La vérité pour ceinture, la justice comme cuirasse, le zèle à servir l'Évangile, le bouclier de la foi, et après ouais. L'esprit, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et tout ça, nous le puisons dans la force de Christ. En nous disant de nous armer de la même pensée que Christ, Pierre nous demande d'adopter la même attitude que lui devant la souffrance, les épreuves, afin de faire la volonté de Dieu, quoi qu'il arrive. C'était la raison de sa venue sur terre. Jean 4, 34, que je vais essayer de trouver. Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Voilà ce qui animait la pensée de Jésus. Et Pierre nous encourage ici à nous revêtir de cette pensée afin d'accomplir la volonté de Dieu, même si cela implique souffrance, épreuve et incompréhension. Christ a souffert, il est mort, il est ressuscité pour vaincre le péché. Lui qui était sans péché a pris sur lui tous nos péchés afin de nous rendre justes et purs devant lui. Par son œuvre, nous ne sommes plus sous la puissance du péché. Nous n'en sommes plus esclaves. Et même si parfois nous péchons, Christ nous a libérés de son emprise, de son pouvoir. Voilà. Après ce rappel du contexte, j'avais relevé les points qui ont retenu mon attention en préparant ce message. Et le premier point, c'est Dieu nous a délivrés de la culpabilité et du châtiment éternel qui est attaché au péché. Alors quand nous mourrons, nous n'aurons plus aucune faute à notre actif, puisque Christ les a portés. Il a porté toutes nos fautes. Cependant, durant notre vie sur terre, nous sommes toujours confrontés au péché qui agit dans le monde et qui altère parfois notre marche et notre obéissance. Obéir à Christ nous fait souffrir dans ce monde. On se moque de nous. Nous subissons des reproches. Nous sommes parfois mis à l'écart de la société. Nous pouvons perdre nos amis et parfois être rejetés par notre famille. Alors Pierre nous dit ici que si nous acceptons d'obéir, de suivre Jésus, c'est parce que nous avons rompu avec le péché. Sa puissance n'a plus de pouvoir sur nous. Certes, nous lutterons avec le péché, mais vivre dans l'obéissance à Dieu, pour sa gloire, est devenu le centre de nos vies. Dire non au péché, résister à la tentation, choisir d'obéir à Dieu, nous fera souffrir. Le péché ne dirige plus nos vies. Nous sommes libres de ne plus suivre les désirs humains, mais de faire la volonté de Dieu. Les choses n'ont pas beaucoup changé depuis. Les passions charnelles continuent leur œuvre de destruction massive. C'est devenu la norme dans nos sociétés, où Dieu est mis à l'écart, où il n'a plus sa place. La moralité n'est plus déterminée par Dieu, mais par le désir de chacun. La recherche effrénée des désirs des hommes ne comble pas les vides de leur cœur et les dirige dans le gouffre de la mort. Ils se croient libres de choisir leur vie sans voir qu'ils sont prisonniers de leurs pensées, esclaves de leurs passions. Mais nous qui sommes devenus des citoyens du royaume de Dieu, nous qui nous identifions à son peuple, nous qui sommes saints, mis à part, nous rejetons le péché que les hommes célèbrent. Par nos manières de vivre, nos attitudes, nous dérangeons, nous gênons les consciences de ceux qui vivent selon leurs désirs. Nous pouvons être victimes de leur méchanceté, de leurs paroles blessantes, et malheureusement pour certains de nos frères et sœurs, dans de nombreux pays, subir la persécution. Mais ceux qui tyrannisent nos frères et sœurs, qui les emprisonnent, auront à rendre des comptes de leurs actes devant Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 1. De Thessaloniciens, chapitre 1, de versets 6 à 9. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous accorder à vous qui souffrez du repos avec nous. Cela se produira lorsque le Seigneur apparaîtra du haut du ciel avec ses anges puissants. Alors oui, personne n'échappera au jugement de Dieu. Pardon. Tous les hommes en subiront les conséquences, c'est-à-dire la mort, qui est le jugement du péché. Mais Pierre rassure ses destinataires de la lettre, en leur disant que les chrétiens qui sont morts vivent en esprit, dans la présence de leur Dieu. Le deuxième point que j'avais relevé, c'est de nous dire attention, parce que la fin est proche, la fin de toutes choses. Alors ça fait 2000 ans que la fin est proche. Mais nous savons que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Alors qu'est-ce que 2000 ans au regard de l'éternité ? Pierre croyait peut-être au retour du Seigneur de son vivant. Généralement, la fin des temps est considérée comme l'intervalle de temps entre les deux venues de Christ sur la terre. Mais pour chacun d'entre nous, la fin de toute chose est proche. Au mieux, pour les plus âgés d'entre nous, quelques dizaines d'années. Je suis généreux. En vieillissant, nous prenons conscience que notre vie sur terre est brève. Que toutes les choses que nous faisons, celles que nous aimons, auront une fin. Mais pour nous frères et sœurs, notre fin sera sur la terre. Notre fin sur la terre sera le début de notre destinée céleste. Grandiose, inimaginable. Vivre avec notre Seigneur pour l'éternité. Au verset 2, Pierre nous encourageait à vivre selon la volonté de Dieu. Et ici, en nous rappelant que la fin est proche, Pierre nous invite à discerner quelles conséquences devraient avoir ces vérités dans nos vies. Il me semble que les versets qui suivent nous en donnent un aperçu. Pierre les résume en deux vérités. Pardon, il résume ces vérités en deux dimensions relationnelles. Une spirituelle avec notre Dieu et une fraternelle avec nos frères et sœurs. En nous demandant d'avoir une vie sage, équilibrée, Pierre nous appelle à rester vigilants, à bien réfléchir à nos vies, au monde qui nous entoure, au temps qu'il nous reste, afin de prier pour que nous soyons remplis de la pensée du Seigneur. Faire la volonté de Dieu est aussi de nous aimer les uns les autres, d'un amour ardent, c'est-à-dire d'un amour qui ne soit ni tiède ni mou. Un amour ardent implique un effort entier, soutenu, comme celui d'un athlète. L'amour fraternel est essentiel à la qualité de nos relations. Certes, nous aimons, mais souvent d'une manière sélective, selon nos personnalités, nos caractères, nos affinités. Et notre amour finit par déborder pour les uns et se réduire au minimum syndical pour les autres. Alors soyons attentifs à la qualité de nos relations. L'amour de Christ doit faire naître en nous un amour pour tous nos frères et sœurs. Sans cet amour, nous ne serons pas vraiment une véritable Église telle que Dieu la conçoit. Cet amour se concrétise par des actes pour le bien de l'autre, cet amour se concrétise au verset 8 par le pardon mutuel, au verset 9 par l'hospitalité et au verset 10 par l'exercice des dons au service des uns et des autres. Dans ces trois versets, il est question de réciprocité dans nos attitudes et dans nos actes. Tout cela pour le bien de l'Église. Les uns pour les autres, les uns envers les autres, et chacun au service des autres. C'est par amour que Dieu nous a sauvés. Son amour qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit est un amour qui passe par-dessus les offenses, qui ne soupçonne même pas le mal. Pierre cite Proverbe 10-12. La haine allume des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Alors, peut-être que Pierre, en citant ce verset de Proverbe, se rappelait-il la réponse de Jésus lorsqu'il lui demanda « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Et Jésus lui répondit « Non pas 7 fois, mais 70 fois, 7 fois. » L'amour se manifeste aussi par l'accueil de l'autre. Un amour qui pardonne exerce l'hospitalité sans se plaindre. Au premier siècle, l'hospitalité des croyants les uns envers les autres était une nécessité. Les activités des assemblées ont lieu dans les maisons. Il faut donc que certains ouvrent leur foyer. Des pasteurs itinérants visitaient les églises. Ils avaient besoin d'un toit et d'un couvert. Pendant les persécutions, des familles devaient fuir et se rendre dans des régions plus tranquilles. Il fallait donc les accueillir. Un amour qui pardonne et qui accueille l'autre est une manifestation du Saint-Esprit qui unit les croyants entre eux. C'est un amour qui coûte en argent, en temps, mais qui est victorieux de l'égoïsme naturel. Nous avons besoin de l'hospitalité pour nous encourager, pour mieux nous connaître, pour partager notre foi. J'hésitais à vous partager un témoignage, mais il a été important pour moi. On venait de quitter une église et j'étais vraiment meurtri dans mon cœur parce que j'étais perdu. J'étais décidé à ne plus retourner dans une église et à la fois je savais le poids que ça avait en disant ces questions. Je me rappelle qu'un frère de l'église d'Uzès est venu s'enquérir de nos nouvelles et nous inviter un jour à manger un dimanche à la maison avec un autre frère écossais. Et j'ai vraiment ressenti toute la chaleur, toute la présence de Dieu dans cette hospitalité. Et ça m'a, comment vous dire, recadré en fait. Et vraiment l'amour de ces frères et sœurs pour moi, qui étaient partis, qui n'étaient pas encore revenus, où il n'y avait aucun jugement, j'ai vraiment vu l'amour de Dieu pour moi. Et ça m'a fait un bien immense et ça m'a remis sur les rails de des voies de Christ. Alors soyons généreux avec ce que le Seigneur nous donne. Partageons-le avec joie. Nous démontrerons en cela l'amour de Dieu qui est dans nos cœurs. Troisième et dernier point, c'est nos dons qui doivent être mis au service des autres. Pour cela, je vais vous relire 1 Pierre 4, des versets 10 à 11. Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier, qu'il exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire en revienne à Dieu par Jésus-Christ. À qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Alors, en bon intendant des dons que Dieu nous donne, nous qui devons les gérer, les utiliser avec sagesse, efficacité, nous devons le faire pour le bien de l'Église et le bien de nos frères et sœurs. Tous les membres du corps de Christ sont impliqués dans ce processus. Dieu nous qualifie afin de le servir à travers les dons qu'il nous donne. Je pense que Paul, dans Romains 12, ne fait pas de distinction en termes d'importance des dons. Ce qui est important, c'est de les mettre en pratique, nos dons. Alors nous nous demandons peut-être comment servir l'Église. Comment découvrir nos dons. Moi, je pense qu'on peut trouver des exemples dans nos vies. Parce que nous essayons plusieurs activités, qu'elles soient sportives, sociales, artistiques. Et en les pratiquant, nous pouvons voir celles pour lesquelles nous avons des facilités. Nous sommes plus aptes à accomplir les dons que Dieu nous donne. Moi, je me suis vite rendu compte que je n'étais pas doué pour la danse. Au grand désespoir de Véronique. Je ne suis pas ton Baryshnikov. C'est un danseur russe. Non, moi, j'étais meilleur à la pétanque. Mais je crois que ce n'est pas différent pour servir dans l'Église. Nous ne savons pas toujours ce que l'on est capable de faire, quel don nous avons. On se dit comment faire. Moi, je pense qu'il faut agir. Nous devons regarder les besoins, quels sont les besoins dans l'Église, et essayons de pourvoir à ces besoins. Que ce soit pour donner un coup de main, un coup de balai, pour la louange, la sono, le culte des enfants, des visites. Faisons-le. Nous ne serons peut-être pas faits pour toutes ces activités, mais en réfléchissant à comment nous pouvons servir, nous trouverons quels sont nos dons, c'est sûr. Nos pasteurs, nos frères et sœurs le verront et nous y encourageront. Alors c'est vrai que certaines activités paraissent moins attrayantes que d'autres. Il est plus valorisant de chanter de magnifiques cantiques que de passer l'aspirateur. Mais il faut savoir, il faut que nous sachions que Dieu voit toute la profondeur de notre foi et de l'amour que nous lui portons en effectuant ces tâches, les tâches les plus ingrates. Alors donnons tout ce que nous sommes au service de l'Église. Soyons disponibles, attentifs et utilisons les dons que le Seigneur nous donne en réponse à sa grâce magnifique et imméritée pour que la gloire lui en revienne à lui tout seul. Je voudrais conclure avec un passage tiré d'un livre de Francis Schaeffer. C'est un écrivain chrétien, philosophe et pasteur américain. « Sans amour sincère entre chrétiens authentiques, Christ nous dit qu'il ne faut pas s'attendre à ce que le monde nous écoute. Même si les réponses que nous donnons sont satisfaisantes, parfaitement satisfaisantes, si le monde n'est pas témoin de la réalité de cet amour, il ne croira pas que Dieu a envoyé son Fils. Alors je nous invite à travers les dons que le Seigneur nous a donnés, à travers l'amour, à travers l'hospitalité, à servir le Seigneur, à servir nos frères et sœurs, et à nous aimer ardemment les uns les autres. Amen. Je relaisse la place à...
On est à l'heure, Félix, hein, tip-top. Hein. Non, je te taquine. Je vais laisser la place à Félix qui a quelques annonces à vous faire. Alors, notre frère a parlé de l'hospitalité. Alors, je peux vous dire dans votre église, je ne sais pas si ça fait quand même pas mal de temps qu'on vient ici. Je pense qu'il n'y a pas eu une fois où on est reparti chez nous sans être invité. Et je me souviens que la toute première invitation, on repartait avec notre voiture. Et il y a une sœur dont je tairai le nom, elle dit, oh, vous repartez, vous êtes tout seul, rien n'était prévu du quoi que ce soit, ne rentrez pas chez vous et tout. Michel qui dit, non, elle n'a rien prévu et tout. On est allé, on a passé un moment béni et tout, donc continuez dans cet exercice de l'hospitalité, je peux vous dire que ça nous permet, ça nous encourage à nous aussi, et c'est une bénédiction de pouvoir échanger avec vous. Voilà, Félix, je te laisse la place et la conclusion.
Merci Frangin, et puis merci au Seigneur, et surtout merci Antoine. J'étais vraiment béni, et je crois que passer aux annonces sans remercier Dieu et sans demander à Dieu de nous parler encore davantage dans notre cœur, ça c'est vraiment mal faire. Et je ne veux pas passer aux annonces sans répondre à ce message qu'on vient d'écouter. Merci beaucoup, mon frère.